de Capitole du Libre d'avoir donné à l'April la conférence de clôture de ce bel événement, parce que ça a atteint une envergure qui dépasse parfois la région, puisque même la région toulousaine est au-delà, puisqu'on a des gens qui viennent un peu de toute la France maintenant, donc c'est une consécration pour eux et pour le gros travail qui est fait. Alors je vais me présenter, le thème de la conférence, vous l'avez vu, c'est un peu le libre pour espérer changer la société. Alors, bien sûr, ça va. Hop. Non, ça marche pas. Bon, je vais le faire à la main. Ça sera mieux. Donc ici, je vais essayer de vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est que le logiciel libre. Bon, je pense que vous le savez, mais je vais quand même remettre un peu à plat les bases utiles pour comprendre un peu cet univers qui, il y a 40 ans, relevait totalement du concept et de l'utopie. Et après, j'essaie de voir un peu, on va discuter un petit peu ensemble quand même, pour essayer de voir de quelle façon le libre rayonne un petit peu dans toutes les sphères de la société, pour peut-être essayer de la faire évoluer. En mieux ou pas, je ne sais pas, ça va être un petit peu prospectif. Alors, qui suis-je? Votre serviteur, c'est moi, donc je suis Rémi Boule. Dans la vraie vie, je suis professeur de maths à l'IUT de Blagnac, au département d'informatique. Je vois qu'il y a des étudiants dans la salle, alors d'avance, n'espérez pas avoir des points de plus, hein. Bon, je sais que vous ne venez pas là pour ça. Et dans la vie associative, qui est aussi la vraie vie, c'est une deuxième vie, on est toujours un peu, vous savez, on a deux vies ou trois des fois. Je suis aussi vice-président de l'April, et plus particulièrement en charge des questions d'éducation. J'ai aussi participé à la création d'un groupe local qui s'appelle Linux Edu, puisqu'étant prof, ça me touche beaucoup le fait de promouvoir le libre éducatif, et c'est des valeurs dans lesquelles je pense que tout le monde devra adhérer, puisque c'est vraiment fondateur de notre société. Hein, les générations de demain, c'est ceux qui gouverneront peut-être plus tard, et ceux qui prendront nos décisions. Donc voici, après l'April, qu'est-ce que c'est? L'April, je pense que tout le monde connaît, donc vous avez ici les objectifs principaux de l'association, qui datent depuis une bonne quinzaine d'années, 18 ans, pardon, puisqu'on a fêté nos 18 ans, donc on est sorti de la phase d'adolescence, peut-être l'âge adulte maintenant, j'espère, hein, ça devrait arriver, mais vous savez, à 18 ans, des fois, on n'est pas toujours adulte, même après, d'ailleurs. Donc notre feuille de route, c'est la suivante, nous, c'est promouvoir le libre et le défendre. Donc on le promeut dans toutes les sphères de la société, on essaie de le promouvoir à tous les niveaux. C'est ce qui nous fonde, et on a aussi une action assez forte sur tout ce qui touche les formats ouverts et l'interopérabilité. Hop, on revient ici. Et on a une action qui est surtout institutionnelle, ça peut paraître un petit peu abstrait, mais on essaie vraiment d'obtenir des décisions politiques, juridiques, favorables au logiciel libre. Donc on a une grosse activité de veille sur les projets de loi en cours, sur les consultations, qu'elles soient au niveau du gouvernement français ou européen, pour on est actif pour que ça ne contrarie pas les intérêts du logiciel libre. Et il y a beaucoup de choses qui se passent, des fois en sous-main, où les citoyens ne sont pas forcément informés, hein, même pas du tout, puisque ça passe pas au journal de 20h, hein, peut-être un jour ça passera. Donc c'est important que des gens comme nous et d'autres, on est placés là-dessus, fasse un petit peu une veille active et pour faire un peu de pression bienveillante envers nos élus. On rencontre parfois des députés, on a des rendez-vous parfois aussi dans des cabinets ministériels. Alors ça peut sembler abstrait, mais c'est là où on peut faire entendre notre parole et on arrive aussi à faire de la sensibilisation là-dessus. Autre objectif de l'association, c'est défendre les droits des utilisateurs et du logiciel libre en général. Donc c'est vraiment les points clés, je dirais que c'est les trois premiers, quoi, en fait. Hein. C'est ça notre cœur de métier. Nos moyens pour ça, on a trois permanents qui sont sur Paris, Frédéric, Jeanne et Isabella, qui sont vraiment le fer de lance de l'association, et vraiment aussi, ils sont un peu irremplaçables pour nous, parce que si un d'eux partait, il faudrait le remplacer par un cluster de bénévoles, j'imagine. Ils font tellement de choses, puis il y a tellement de dossiers à traiter, que vraiment, je les en remercie ici, hein. De toute façon, ils ne m'écoutent pas, ils le verront dans la vidéo, de toute façon. Alors, je vais rappeler un petit peu les fondamentaux du logiciel libre, parce que c'est vrai qu'ici, l'événement est axé sur le libre en général. Donc, je vais revenir un peu à la base, le logiciel. Alors, le logiciel, vous savez tous, il y a les fameuses quatre libertés. Vous avez entendu parler, je pense. Vous savez qui a créé le mouvement du logiciel libre à la base? C'est Stallman, voilà. Bon. Donc, il a défini les quatre libertés. Et parmi ces libertés, la liberté dite zéro, puisque bon, en informatique, on commence à compter à zéro, en fait. Hein. Et c'est la liberté, ici zéro, c'est celle de lancer un logiciel. Donc là, on a Liscobol qui lance le logiciel. Donc ça peut sembler assez, oui, c'est évident, je peux lancer le logiciel, je suis libre de le lancer. Mais il faut savoir qu'il y a des logiciels privateurs, on dit aussi propriétaires, qui vous restreignent là-dessus. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser le logiciel pour certains usages. Il y avait notamment la suite FrontPage, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, c'était avant, qui servait en fait à faire des pages web. des pages web pour Internet Explorer seulement, en fait, parce qu'il n'y a que là où ça marchait. Hein, mais, et dans les conditions d'utilisation, il était interdit d'utiliser FrontPage pour dénigrer, faire des pages web qui dénigrent les services de Microsoft ou Expedia. Donc voilà, donc c'était marqué quand même dans le contrat de licence d'utilisateur. D'autres logiciels, notamment de vidéos, ben on ne peut pas les utiliser dans des pays comme l'Iran, par exemple. Donc voilà, bon, on peut se dire, bon, ok, en Iran, il y a des méchants terroristes hein, qui vont nous tout détruire chez nous et casser notre modèle, mais c'est une porte d'entrée pour peut-être contrôler aussi votre utilisation. Donc liberté zéro, c'est simple, mais quand même, c'est pas gagné tout le temps. La liberté suivante, c'est celle ici, ben, c'est d'étudier le code. Alors c'est un bon parallèle parce que c'est un tableau de maths. Hein. Alors c'est, je donnerai les sources des photos après, c'est pas mon tableau, hein. Sinon mes étudiants ils partiront en courant. Mais ça montre qu'un logiciel est libre. La liberté 1, c'est on peut étudier le code, on a accès au code, je peux le voir. C'est proche de ce qu'on appelle l'open source. Là. Mais là on est vraiment à l'open source, on voit le code. Nous on parle de logiciel libre, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voir le code, c'est le parallèle avec les maths est important. Parce que si on pense qu'un théorème de maths, c'est le logiciel, et la démonstration, c'est le code source, on comprend bien qu'il faut que le code source soit accessible et modifiable, puisque grâce à ce théorème-là, on va pouvoir en construire d'autres sans restriction. Dans le modèle de la recherche scientifique, notamment en maths, se transpose assez bien dans le mode du logiciel libre. Ensuite, la troisième liberté, liberté 2, pardon, puisqu'on compte à zéro, c'est la liberté de partager. C'est-à-dire que vous pouvez, on dit, aider vos amis, vous pouvez diffuser le logiciel, vous pouvez diffuser les binaires, à qui vous voulez. Même à Judas. Hein, parce que il est là, Judas. Et il est aussi dans le libre, Judas, donc il faudra faire attention aussi. Je reviendrai un petit peu plus tard. Pas polémiquer, là, c'est la fin de la journée, mais on peut. Et enfin, la liberté ici de modifier le code. D'accord ? Donc l'image du garage est assez intéressante parce qu'on peut le bricoler. On peut le hacker, on peut apporter des améliorations. Mais attention, ça ne veut pas dire que n'importe qui peut prendre, par exemple, le code source de Firefox, qui est un logiciel libre assez connu, le modifier, puis le redistribuer. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, une notion de communauté. Alors oui, n'importe qui peut télécharger le code, le modifier et le redistribuer, mais ce ne sera plus Firefox. Ce sera autre chose. Ce sera mon Fox à moi, mon navigateur que j'ai personnalisé. Pour proposer des patchs à la communauté, il faut qu'ils soient validés. Donc il y a quand même un process, une gestion de qualité qui est importante dans le monde logiciel. Voilà à peu près le rappel, mais c'est important de ces fondateurs. Alors ces quatre libertés, c'est proche aussi de la devise de la République, hein, liberté, égalité, fraternité. On les retrouve là-dedans, d'ailleurs. Mais le logiciel libre dans notre monde, comment ça peut exister, notre monde de compétition, d'innovation permanente Bon, il faut un socle juridique à tout cela. Alors, je vais faire une petite parenthèse juridique, hein. Je suis désolé, mais c'est bien de rappeler un petit peu comment ça évolue, mais... Alors, le logiciel libre, on dit souvent, enfin, des fois, on entend, oui, c'est, moi, je suis contre le droit d'auteur, je dis le logiciel libre. Pas du tout, le logiciel libre, il s'appuie complètement dans le droit d'auteur. Il est inséré, on le voit ici, dans tout le système du droit d'auteur. Donc, il y a les licences libres, on les a ici, là, sur le fond jaune. Alors, il y a deux types de licences en libre, hein. Je résume un petit peu. Les licences libres, il y en a 200, en fait, hein. Si vous voulez, après, on pourra dérouler la liste des 200 et voir, mais c'est, on va peut-être éviter. Donc, il y a les licences de type copyleft. On appelle ça licence diffusive. Les mauvaises langues appellent ça des licences virales. Parce que virale, c'est une connexion négative. Donc, nous, on va dire plutôt diffusive. Et les licences ici, on voit dites permissives. C'est-à-dire les licences où il n'y a pas vraiment le copyleft. Vous voyez la différence entre les deux? Alors, question? Prenez une feuille, quelle est la différence entre les licences copyleft et non copyleft? Les autorisations? Dans quelle... Ouais, c'est une question d'autorisation des libertés. Ouais. Dans copyleft, on n'est pas obligé d'appliquer la même licence. Alors justement, c'est le contraire. Dans le copyleft, si on fait des modifications, on est obligé de le redistribuer sous les mêmes termes de la licence, en gros. Voilà l'idée. On dit que c'est pour ça que c'est diffusif. Quand c'est pas copyleft, ben on n'est pas obligé. Donc on peut prendre un code qui est sous licence type Apache, BSD, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Le modifier et distribuer le logiciel fini, mais pas les modifications. Voilà en gros l'idée. Hein. Et après, il y a tout le magma des licences privatrices. Donc en gros, pour caricaturer, on va dire qu'il y a trois familles. Hein. Il y a les côtés, là, ici, c'est propre, le copyleft. Et là, c'est sale. C'est le propriétaire. Bon, il y en a qui aiment les choses sales, hein, mais c'est leur problème. Entre les deux, il y a quelque chose qui est un peu terreux, quoi. Hein, voilà. Ça permet des choses comme Apple, par exemple. Enfin, je veux pas être méchant, c'est très bien, mais c'est basé, le noyau de Apple est basé sur un logiciel type BSD. Donc, ok, c'est un modèle économique, pas de souci, mais ils ont pris du travail qui a été fait par d'autres en BSD, ils l'ont modifié, grandement amélioré d'ailleurs, mais ils ne reversent pas à la communauté. Donc c'est un petit peu, voilà. Tandis que le libre, c'est ce côté-là. C'est pour ça que certains, des fois, en entreprise, sont un peu réluctants, ils hésitent un petit peu à mettre du code sous licence copyleft, parce qu'après, ça les oblige à utiliser des logiciels copyleft, après, ça les oblige à redistribuer. Bon, c'est pas toujours évident pour eux. C'est des choix stratégiques. Hein. Alors, excusez-moi, j'ai un petit peu caricaturé en disant que ce qui était propre, sale ou terreux, mais ça donne un peu l'idée. Pour une entreprise qui développe un logiciel, c'est un choix. Donc, je sais pas, moi, quel est le bon choix entre le copyleft et le non-copyleft. Hein. Enfin, pour moi, en tant qu'après, je vous dirais que c'est le copyleft, évidemment. Mais une entreprise a peut-être d'autres intérêts que de faire progresser la société. Je caricature un peu. Et bien sûr, aussi, un point important, c'est celui de la gratuité, là. D'accord ? Donc ici, on voit que la gratuité, elle peut être partout. Là-bas, on a les freeware, en gros, que vous téléchargez. Et les gratuits et libres, sachant que le logiciel libre n'est pas forcément gratuit. Par exemple, des logiciels propriétaires gratuits, vous en connaissez ? Parce que moi, je ne l'utilise pas, donc... Qu'est-ce qu'il y aurait ? Opera ? Oui ? Un autre ? Inkscape ? Skype, ouais, Skype. Winamp, voilà. Il y a aussi Internet Explorer. Il est gratuit, Internet Explorer. Ben, en fait, bon, il n'est pas gratuit puisque vous le payez. Quand vous achetez un ordinateur, vous l'achetez avec. Vous n'avez pas le choix. Ce qu'on appelle la vente liée. Hein. Essayez d'aller à la Fnac ou à Darty ou ailleurs et demandez-le un ordinateur sans OS. Vous verrez ce que la réponse. Alors, c'est compliqué, hein. Il y a des procédures judiciaires pour ça, mais on peut y arriver. Parce que c'est vendu avec, c'est vendu de force, en fait. C'est la vente forcée. Vente liée, on dit aussi. Après, logiciel libre payant, vous en connaissez des exemples en copyleft payant ? Bon, oui, dans la suite de Red Hat, il me semble qu'il y en a. Bon, après, il y en a vraiment beaucoup. Vous regardez notamment, je reviendrai après sur l'économie du libre, hein. Il y a le cluster d'entreprises locales qui s'appelle Solibre, qui développent des logiciels, qui les vendent, et c'est souvent sous copyleft. Donc, il y a toute une diversité. Je vous dis, il y a 200 licences en tout. Alors, le libre, donc, on a fait les fondations, les libertés, les licences, en gros. Hein. Donc, on va retenir permissif, diffusif et privateur. Donc, le libre, avant, au début de notre ère, le début de notre ère, c'est à 30 ans, quoi, là, le mouvement GNU. Ben, il y avait, c'était vu dans l'opinion publique, auprès des décideurs, des entreprises, comme ben, un doux rêve, en fait, hein, on le voit bien, ici. C'était aussi un rêve de gens un peu utopiques, hein, vaguement anarchistes, qui codaient dans un garage, enfin, on a tous entendu cette image d'Épinal-là. Et il y avait aussi, c'était soumis à l'effet Veblen. Est-ce que vous avez entendu parler de l'effet Veblen ? Bon, en fait, normalement, vous devez connaître, hein, puisqu'on est tous victimes de cet effet-là. Veblen, c'est un économiste du début du siècle, enfin du siècle d'avant, pardon, qui a en gros constaté que quand le prix d'un produit de luxe, hein, un produit un peu ostentatoire, baissait, l'intérêt des consommateurs baissait également. Donc en gros, l'idée, c'est pour résumer à une phrase, c'est que le prix fait partie du produit. Dit autrement, parce que c'est une contraposée à voir, c'est-à-dire quelque chose qui est gratuit, forcément de pas bonne qualité, puisque si ça avait de la qualité, ça aurait de la valeur. Donc, vous voyez, c'est une vision qui est quand même assez monocore de la gratuité et de la valeur surtout. Donc voilà, l'effet Veblen, bon, libre, c'est souvent gratuit, donc bon, c'est que c'est moins bon. Ils n'ont pas réussi à faire du business avec. Alors que oui, on peut en faire aussi. Hein. Et c'était aussi vu comme un passe-temps de hacker, on l'a vu dans un garage. Alors ça a évolué, ça quand même. Il y a quand même de grosses évolutions, puisque maintenant, c'est toujours ça en fait. Hein. C'est toujours un rêve, c'est toujours c'est gratuit, donc c'est pas bien, ou c'est toujours quelques geeks dans un garage, etc. Mais ça, c'est devenu intéressant parce que c'est seulement pour certains que ça a évolué. Il y a quand même une évolution. Et l'évolution, on la voit ici, c'est que le libre, c'est devenu une utopie en marche, une utopie concrète qui se réalise. Sinon, vous ne seriez pas là, la preuve, il n'y aurait pas tous les mouvements qui sont créés autour du libre. Je pense Savoir Commun, Framasoft, d'autres structures comme ça. Ben, c'est l'utopie, elle se fait. Avant, c'était un passe-temps de hacker, et maintenant, c'est un passe-temps utile. Utile même en entreprise. Il y a des entreprises sur Toulouse qui autorisent leurs salariés, qui sont développeurs en informatique, à contribuer à du logiciel libre. Alors qu'avant, pour un directeur en DRH, c'était une hérésie. Il disait non, attendez, moi je paye des développeurs toute l'année, c'est pas pour que sous le week-end ils aillent contribuer à des projets libres, ils travaillent pour moi. Donc les entreprises, même du monde propriétaire, ont compris qu'elles avaient intérêt à laisser leurs développeurs, leurs salariés, leurs ingénieurs se faire un petit peu les dents et en fait se former et enrichir leur CV en contribuant à des projets libres. Il me semble que même certaines sociétés en Allemagne, je ne vais pas tomber dans la caricature, le modèle allemand c'est mieux, parce qu'on entend souvent parler, mais certains développeurs sont vraiment déchargés sur une demi-journée pour contribuer au projet qu'ils souhaitent. Projet libre, souvent, et de préférence, c'est même dans la charte. On a aussi tout un ensemble de modèles économiques. Donc j'ai parlé de Solibre tout à l'heure, qui est le cluster qui est très dynamique sur la région toulousaine d'entreprises du libre, et le CNLL, c'est le Conseil National du Logiciel Libre, donc qui fédère tous ces clusters régionaux-là. Donc il y a une vraie dynamique. Le CNLL, si je ne me trompe pas, ça date d'il y a un an ou deux. Donc il y a une vraie force d'entreprise en face du modèle privateur qui se structure pour répondre aux besoins de la société, en fait. Le logiciel libre, parfois, dans les commandes, est un socle technique apprécié, c'est-à-dire que c'est demandé par des entreprises, des clients de sociétés de services informatiques vont demander un peu s'il y a un socle libre dans les solutions qui sont proposées. C'est quelque chose qui est apprécié, qui est valorisé, et ça met du collaboratif un petit peu partout. Mais au-delà de ça, le libre, pour nous, c'est un mouvement social. Et on dit souvent que si on réussit juste à libérer du code, ça sera un échec, quelque part. Puisque nous, on a la perspective on le voit bien avec les communautés, c'est vraiment un mouvement de fond de la société. On peut des fois parler même d'un nouveau paradigme, en fait, hein, nouveau modèle de société. Alors, je ne sais pas où on va aller, mais en tout cas, on est bien parti. La société, elle se fonde quand même sur le politique. Alors, le libre, où est-ce qu'il se situe là-dessus? Alors, on peut dire que le libre, on va caricaturer, on va dire de gauche. Voilà. Les valeurs de gauche, c'est quoi? Je vous caricature, excusez-moi, hein, c'est le partage, la collaboration, l'entraide, les communs. Communs, communistes, hein, d'ailleurs. En fait. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'était le numéro 2 de Microsoft qui avait taxé les libristes de dangereux terroristes communistes. Enfin, il n'avait pas mis terroristes, ça c'est moi qui le rajoute. Mais en tout cas, il est vraiment taxé ça de nouveaux communistes, de cancer de la société, etc. Donc oui, si on peut dire, ok, c'est des valeurs de gauche. Mais finalement, ça peut être aussi des valeurs ultralibérales, c'est des valeurs de droite aussi. Hein, je caricature toujours. C'est-à-dire, libre, ça permet une concurrence libre parce que tout le monde accède au code source, vous voyez? Tous les acteurs peuvent prendre le code source, l'améliorer, le diffuser, et du coup, c'est pas faussé. D'accord? Puisque vous n'êtes pas obligé d'utiliser un socle technique propriétaire pour une certaine solution. Je pense dans le cas des marchés publics, par exemple. Donc, tout le monde, avec les mêmes compétences, prend le code d'un logiciel, une brique logicielle, et essaie de l'améliorer pour répondre à une demande. Donc, tout le monde part sur le même pied d'égalité, et bien, que le meilleur gagne, en fait, hein. C'est ça. Donc, si c'est pas de gauche, c'est que c'est pas droite. Finalement, c'est pas au centre non plus, parce que là, on retrouve des valeurs qui sont entre guillemets de gauche. Et avant, là, c'était des valeurs entre guillemets de droite. Donc, c'est plutôt centriste, tout ça. Donc voilà, c'est nulle part. Parce que le libre, à notre avis, c'est quelque chose qui transcende totalement la politique, qui transcende un peu les idées. On est au-delà. On est vraiment sur le choix de la société, le politikos. On revient au sens premier de la politique. C'est-à-dire comment structurer la vie dans la cité, en fait, c'est ça, la vie dans notre société. Et là, ça pose des questions un petit peu philosophiques. Alors, je vais faire peut-être une digression un petit peu loin. On va reparler rapidement des thèmes de philosophie de Terminal, hein. Je pense que ça vous rappelle des bons souvenirs. Mais c'est important parce que cette approche philosophique-là, elle structure un peu les choix de société, quand même. Puisque là, c'est les thèmes de la philosophie grecque, vous savez, les anabaques que vous avez dû lire, hein, certains, je pense. Enfin, moi aussi, hein, j'avoue. Ça permettait de gagner un petit peu de temps. Mais les philosophes grecs ont permis un peu de s'adonner à la démocratie, qui après est arrivée à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est un petit peu fondateur, ce genre de réflexion. Alors la question qu'on peut se poser, c'est le libre en général, comment il questionne tous ces thèmes-là? Alors, par exemple, si on prend le thème de la liberté. Ok, liberté d'étudier le code, tout va bien. Mais au-delà de ça, on le voit dans un monde de surveillance massif. Je pense que vous avez entendu parler de l'affaire Snowden, NSA. Le libre était aussi un rempart contre ça. Puisque si on accède à un code source d'un logiciel, ben on peut être raisonnablement sûr qu'il n'y a pas des backdoors, hein, vous savez, des petites portes dérobées qui envoient des données à l'insu de votre plein gré, on va dire, hein, sur Internet à des serveurs qui écoutent. Donc le libre, finalement, c'est un des remparts du citoyen contre la surveillance massive. Parce que la question qu'il y a derrière, c'est est-ce qu'on est libre ou qu'on est surveillé ? Ça, c'est à débattre. Peut-être une autre conférence pour en parler. Le libre aussi questionne le rôle de l'État. L'État, dans le système de surveillance, quel est son rôle ? Puisque l'État, c'est la chose publique. Hein. Nous, c'est le res publica, quoi. Donc, qu'est-ce que ça devient que dans une société de surveillance massive, en plus, à l'insu des citoyens, où les archives stockées par la NSA, elles sont, je crois, 1 million de fois plus importantes que les archives de la Stasi à l'époque. Donc, quelle est la place de l'État là-dessus ? Notamment, je pense à l'aspect libre, avec la place de l'open data, où des citoyens, je pense à l'association Regard Citoyen, qui font un effort pour introduire de la transparence dans l'État. Alors, au début, ils sont attaqués au compte des députés, vous savez, la réserve parlementaire, comment elle est attribuée. Être un citoyen, c'est pouvoir exercer librement et de façon éclairée son choix. Et si on n'a pas accès à toutes les données, on ne peut pas le faire. C'est pas possible. Comment choisir entre deux candidats si on n'a pas accès à toutes leurs pensées, ou même les députés si on n'a pas un compte rendu clair, accessible de leur activité. Donc, libre, ça questionne aussi le rôle de l'État. Mais sur la société aussi, dans son ensemble, puisque dans une communauté de logiciels libres, on commence à prendre des mauvaises habitudes, on commence à collaborer, sans préjuger de qui a parlé le premier, pour qui il travaille ou quoi. Non, on est tous un peu sur un monde plat, au même niveau, et en fait, une communauté de libres, c'est juste un pseudo, quoi. Vous êtes un contributeur sous un pseudo, ou votre vrai nom, et les gens, ils vous jugent sur pièce, quoi, ce que vous faites. Pas votre diplôme, votre origine ethnique, politique ou quoi. On n'en est pas là. Donc ça, c'est la question d'un peu la société, l'organisation un peu pyramidale de la société. C'est la question aussi le travail. Hein. Le travail, c'est plus le labeur où on loue son temps. C'est ce qui nous distingue de l'animal, quelque part, le travail. Comment ça devient, dans le cadre de contribution à un projet collectif, une œuvre collective, à définir aussi. Ah, on pourra en discuter après, si vous voulez. La connaissance aussi, ben oui, je pense notamment aussi comme Wikipédia, où on peut contribuer. Qui a la connaissance? Qui a la vérité? Est-ce que c'est le grand professeur de telle université qui détient la vérité? Une personne? Ou est-ce que c'est peut-être 10, 100, 15 ou 3 contributeurs qui, eux, donnent la vérité? Et donc la connaissance. Donc, là aussi, le libre, la philosophie induite il y a 30 ans là, par Richard Stallman, ça perturbe, je pense, ou ça améliore, je ne sais pas, toutes les sphères de la société. Et surtout la notion de propriété. Là, c'est crucial. Qu'est-ce que c'est que la propriété, en fait ? Si on réfléchit bien, la propriété, c'est... moi, je suis propriétaire, par exemple, de cet ordinateur. Bon, il n'est pas à moi, hein, je ne veux pas le voler. Mais si justement, je le vole, la personne à qui il était, ben, elle l'a plus. Normal. Mais si c'est un logiciel, une idée ou quoi, je peux le copier, quoi. Et moi, j'aurai toujours le bénéfice de mon idée, de mon logiciel. L'autre personne aussi. D'accord ? Comment évolue la propriété ? C'est pour ça que quand on parle de propriété intellectuelle, finalement, bon, il y a le code de la propriété intellectuelle, hein. Ben, on mélange tout, hein. On mélange les biens matériels, immatériels, on mélange les brevets, on mélange le droit d'auteur, ça fait une soupe sans nom, quoi, finalement, qui sert un peu d'activité de beaucoup de cabinets d'avocats, d'ailleurs, à se demander si c'est pas l'intérêt principal, mais est-ce qu'on peut être propriétaire d'une idée ? Surtout avec l'époque où, justement, on peut copier très facilement. Autre type de transformation, bon là on sort du cadre un peu philosophique, ça permet de poser les bases. Vous avez les mouvements d'open data, je pense à Regard Citoyen, le portail data de la ville de Toulouse ou d'autres. Ça aussi, ça change la façon dont les citoyens interagissent avec le pouvoir. Les monnaies électroniques, il y avait une conférence tout à l'heure de Carole Fabre, avec Bitcoin, etc. Où là c'est important, ça re-questionne l'État, le rôle de l'État. C'est plus l'État qui imprime la monnaie, là on est dans un autre système à voir. Et puis, on assiste à un nouveau type de citoyens, entre guillemets, les fameux prosommateurs. Vous avez entendu parler de ce concept de prosommateur? Alors, sommateur, ça fait penser à consommateur. Ah, j'allais faire un mauvais jeu de mots, pardon. Donc, on a enlevé le début, C-O-N, pour mettre pro pour producteur. Donc, c'est des consommateurs qui sont aussi producteurs, qui interagissent, qui produisent quoi? De la donnée, qui produisent du code et qui produisent un peu ce qu'ils peuvent en fait. Ils sont un peu acteurs de la société, ils ne se contentent pas simplement d'acheter des biens et voilà, de consommer bêtement. Ils produisent. Et là, c'est une sorte d'avènement, ça a été théorisé par Rifkin, hein, dans un livre que je n'ai pas encore lu, mais j'ai vu un petit peu les idées, on en a parlé. Mais c'est toujours bien de parler de livres qu'on n'a pas lu de toute façon. On le fait tous, hein. Donc, le citoyen est aussi acteur de sa production, il contrôle. On le voit avec les imprimantes 3D, dans les Fab Labs, les Hackerspace, je citerai le Theta Lab sur Toulouse, notamment, ou Artilect aussi, où on peut tout à fait produire soi-même. Et Enercoop aussi, c'est un réseau sur Toulouse qui produit de l'énergie un peu en autonomie. Le mouvement des AMAP, bon, j'ai inclus là-dedans parce que je pense qu'ils partagent nos valeurs, quoi, en fait. Ils partagent les valeurs du libre. Alors justement, en parlant de prosommateurs, c'est un exemple concret qui est tout récent, qui a été fait par un membre de l'April, que beaucoup connaissent. Ben, c'est un exemple type. Quelqu'un, il habite chez lui, il a mis ça, c'est une gage de fenêtre. Ben, la porte a claqué, coup de vent, à Toulouse c'est normal, cassé. Ah, sauf que la gage ici, là, les dimensions, ça n'existe plus dans le commerce. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il n'a pas le choix, il change ses fenêtres. Alors, s'il change une fenêtre, il change toutes les fenêtres, parce que c'est pas possible. Donc je dis, c'est pas grave, je vais la faire moi-même. Donc il a pris un logiciel libre de modélisation 3D, et avec 3 heures de travail, il a réussi à imprimer en 3D sa pièce. Et voici la version finie. Donc ça, c'est un exemple, il y en a plein d'autres, où des gens avec une idée, une philosophie qui les motive en rapport avec le libre, se prennent un petit peu en main, ou plutôt de dire « Allô, Laura Merlin, est-ce que vous avez la pièce de telle dimension ?»« Non, je cherche ailleurs. » Je dis « Bon, ben, je vais le faire moi-même. » C'est un peu le « do it yourself ». Et c'est permis par des valeurs un peu impulsées par le logiciel libre, tout ça. Alors, vous voyez, on est un petit peu dans une transition, là. Le consommateur est en train de disparaître, pour donner peut-être ce fameux consommateur ou autre chose. L'État est questionné. Alors, j'ai une question que je vais vous poser... Sur la base de la philosophie du libre, on est toujours dans l'idée de changer le monde, hein, quelque part, on est un peu prospectif là-dessus. D'après vous, qu'est-ce qui peut nous aider à accomplir cette transition ? Puisque justement, les citoyens peuvent produire eux-mêmes. Nous aider ou peut-être, je ne sais pas si la transition est nécessaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, c'est un débat, ça. On peut l'avoir, hein, si vous voulez. On en est là, on va vers apparemment une société un peu horizontale, avec des producteurs un peu consommateurs aussi, des gens qui sont maîtres de leurs données, qui sont maîtres de l'informatique, qui ne sont pas espionnés, donc qu'est-ce qui va nous aider ? Plus de citoyens ? Citoyens un peu acteurs ?
Un peu d'éducation, je ne crois pas beaucoup à la minorité éclairée qui dirige les autres, mais on est très minoritaire.
L'éducation ? L'éducation de tout le monde éduqué ? Bah, d'ailleurs, l'éducation, c'est une victoire assez récente dans l'histoire de la société, hein, si on regarde bien. Oui ? Éduquer, informer. Et... Là ? Ouais. Ouais. Et moi, je pense qu'on se rapproche un petit peu d'idées comme ça. C'est-à-dire que quand on produit soi-même, c'est ça l'idée. On ne dépend pas de quelqu'un qui produit autrement. Qui produit pour vous, qui possède les moyens de production. Vous voyez ce que je veux dire ? Avant, on avait une société en fait où certaines personnes, des entités, plusieurs, possèdent les moyens de production et puis nous on va travailler pour produire. C'est ça l'idée. Donc c'est une société un petit peu, ce serait peut-être ça à la fin d'un système où la rémunération est un peu différente, où la propriété privée des moyens de production, on est là, elle est plus basée au sein d'une minorité de personnes. Elle est partagée, elle est diffusée. On le voit avec le cet ami là qui a refait ses gages de fenêtre, il peut produire. Il est allé à Artilect, pour 3 euros, il a pu fabriquer ses gages. Les moyens de production sont diffusés dans la société. Alors comment s'appelle ce système économique là ? Où ? Justement, les moyens de production, alors ça sonne vraiment au 19e siècle, hein, la fin d'un système s'appuyant sur la propriété privée des moyens de production afin de rechercher du profit accumulé du capital. Ça rejoint ce que vous disiez ? Comment s'appelle ce système ? Eh bien non, pas du tout. Et en fait, c'est le capitalisme. D'accord ? Donc on en est un petit peu là. Alors attention, Je veux pas donner l'image, dire oui, la prise, c'est tous des voilà. C'est pas ça l'idée. Moi, je parle vraiment du capitalisme au sens premier, hein, au sens Karl Marx, quoi, en fait. Hein. On est au début. Donc, effectivement, si les gens produisent, comment produisent du logiciel, produisent de l'intelligence, la partagent, sont rémunérés peut-être autrement que en louant leur corps et leur cerveau, en fait, parce que c'est, on peut résumer comme ça. Vous voyez, on est. Donc, est-ce que le libre n'a pas finalement en soi les germes de la fin d'une société basée sur propriété privée des moyens de production? Je ne vais pas dire fin du capitalisme parce qu'après je risque d'avoir des problèmes, mais quelque part c'est un petit peu l'idée. À voir, hein, un jour ou pas, puisqu'en plus le capitalisme souffre d'un mal, c'est que, on le voit avec la crise. Si vous regardez la croissance, l'évolution de la croissance sur les 20 dernières années, je ne sais pas si ces graphiques là, c'est vraiment décroissant. La courbe de la croissance est décroissante, en fait. Et depuis 30 ans, les années 70, hein, avant on avait 10 points de croissance, 5, 3, 2, maintenant je crois qu'on est à 0 peut-être. Donc ça veut dire que quelles que soient les politiques économiques mises en place par tous les gouvernements successifs, il n'y a pas eu vraiment d'inversion de la courbe de la croissance. Sans jeu de mots, pardon, excusez-moi. Donc c'est qu'il y a un modèle alternatif à définir, parce que justement le capitalisme est efficace. Il est redoutablement efficace. Il est tellement efficace qu'il se phagocyte peut-être lui-même. Puisqu'on est de plus en plus rentable, la productivité a jamais autant augmenté. Donc vous voyez, il y a deux pôles un petit peu, là, je fais vraiment de la prospective, hein, entre le libre d'un côté, qui s'insinue dans plein de choses dans la société, et puis l'économique pure et dure qui, lui, évolue, qui est trop efficace. Donc la convergence des deux modèles, ou pas, je ne sais pas trop où ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est la question, les choses vont bien évoluer dans le futur. Enfin, nous, en tout cas, on y travaille. Alors, quelques grains de sable un petit peu par rapport au libre en soi. Donc là, je reviens un peu plus sur les dossiers, les thématiques purement appris de notre cœur de métier, on va dire, au-delà d'essayer de faire la révolution, ou l'évolution tout court. Les points de blocage de l'ancienne économie, moi, je vais dire, c'est tout ce qui concerne les brevets logiciels. Vous connaissez le principe d'un brevet logiciel? Ben, c'est un brevet, vous avez un problème un algorithme, et vous essayez de le breveter, alors certains disent le protéger. Nous, on dit plutôt le verrouiller, et ça crée un véritable champ de mine à l'innovation. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui, du coup, pour pouvoir fonctionner, sont obligées de louer des armadas d'avocats pour répondre aux éventuels trolls de copyright, en fait, liés à la guerre sur les brevets. Alors, il y a des brevets, il y en a pour tout et n'importe quoi. Si vous regardez bien, le dernier que j'ai entendu parler, c'est celui sur la Kinect, apparemment. Vous savez, le contrôleur de Kinect. Vous connaissez le principe? Donc, vous mettez la Kinect, et en fait, c'est vous la manette de jeu. Bon, vous êtes on est le jouet, quoi, en fait. Hein. Et il peut savoir combien il y a de personnes dans la salle. Alors, c'est super pratique, parce qu'on se dit, bah, tiens, c'est pour mon bien, c'est pour mon intérêt. Ça veut dire que, quand je rentre dans la salle où mes enfants jouent, par exemple, hop, je rentre dans la partie. Ça, c'est chouette. Mais ça peut être aussi utilisé différemment. Bon, vous avez quelqu'un qui fait l'appel chez vous, quand même, au passage. Et après, ça peut aussi dire, attention, le DVD là, qui a été acheté avec, on va en parler ici, des menottes numériques, des dispositifs de contrôle d'usage, des DRM, il a une licence qui permet 3 visionnages simultanés. Ah, bien, le papa qui rentre, ah, ben, c'est fini, on coupe, il faut qu'il y en ait un qui sorte. Pourquoi pas? Ça, c'est tout à fait possible. Disons que là, il y a des moyens technologiques qui peuvent, après, dans 10, 20, 30 ans, se retourner complètement contre nous. C'est pour ça qu'il faut être maître de cette informatique. Et donc utiliser, bon, j'y reviens, du logiciel libre. Autre dossier, j'en ai parlé, c'est les menottes numériques, hein, les DRM. Si vous achetez, je le fais rapidement, par exemple, un morceau en MP3 ou quoi, qui a des DRM dessus, des menottes numériques, c'est un petit dispositif logiciel qui contrôle votre usage, ben vous avez le droit d'écouter le fichier une fois, deux fois, ça dépend où vous dites, et après ça s'arrête. Ça dépend du DRM, et vous n'avez pas le droit de le copier. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner le morceau que vous avez acheté légalement, le mettre sur le baladeur MP3 de vos enfants ou de votre petit ami ou autre. C'est pas possible. Ça, c'est des choses qui existent, en fait. Hein. On l'a aussi dans le cas des... c'est pas tout à fait un DRM, mais dans le cas des livres numériques, vous savez, les e-books sur liseuse, type Kindle. Vous connaissez tous la Kindle? Vous connaissez aussi le roman 1984? Vous avez entendu parler de cette affaire ou pas? Donc voilà. Ça, en plus, c'est tombé là-dessus. Hein. Alors, je refais pour ceux qui ne sont pas. C'est un hasard? Pur hasard. Donc des gens sont allés sur la librairie d'Amazon et ont acheté 1984, le célèbre roman de George Orwell, que là j'ai lu hein, par contre, hein. Même vu le film, ils encouragent à faire pareil. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Donc plusieurs l'ont acheté, et au bout d'un moment, ils sont revenus un matin, ils ont rallumé leur Kindle et il avait disparu 1984. Il n'était plus là, il a été effacé de leur propre matériel à leur insu sans qu'ils soient prévenus. Parce qu'Amazon a le pouvoir sur vos machines. C'est comme des Minitel, en fait. Hein. Ils font ce qu'ils veulent là-dessus. Donc, ils l'ont effacé parce qu'il y avait un problème de droit à régler, je ne sais plus trop quoi. Mais sur la symbolique, en plus, 1984, ça ne pouvait pas plus mal tomber.
Et... ils ont effacé les notes du lecteur.
Et les notes du lecteur. Ah oui. D'accord. Parce que sur ces lisages-là, on peut annoter la lecture, on peut faire des petits commentaires. Et tout a été effacé, tout perdu. Hein. Pardon ? Je crois que c'était un problème de droit que Amazon n'avait pas payé à la société qui détenait les droits de George Orwell. Alors là aussi, il y a à dire. Hein, sur les droits. Après, on a une action aussi sur la vente forcée. On en a parlé tout à l'heure. Quand vous achetez un ordinateur, on vous oblige à acheter une licence de logiciel. Ça, c'est clair. Alors, on essaie, nous, au niveau juridique, par des procès qui sont longs, très longs, en soutenant des adhérents ou notamment, je pense, à Racketiciel. On essaie de faire évoluer le droit pour essayer d'avoir enfin une jurisprudence sur laquelle on puisse se baser pour faire évoluer ça. On a quelques petites avancées, hein, mais il faut expliquer ça aux magistrats. C'est pas forcément évident, c'est pas vraiment leur compétence. Vous, si vous êtes ici, vous savez à peu près ce que c'est, mais pour un juge standard, on va dire, c'est un concept. Hein. C'est une exploitation déjà, qu'est-ce que c'est ? Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont amenés à statuer sur des affaires dont ils n'ont pas la maîtrise. Là, ça pose quand même un souci aussi. Les accords TAFTA, je pense que aussi vous avez entendu parler, c'est les accords internationaux qui font qu'à terme, peut-être une compagnie privée pourra attaquer un État puisqu'elle n'a pas respecté certains droits et devoirs. Donc ça pose des questions. Si par exemple un État interdit les OGM, imaginons, Monsanto peut dire non, attention, je vous attaque en justice devant une cour qui n'est pas nommée par des citoyens. Vous voyez, ça pose quand même un certain nombre de dangers. Et aussi pour nous, au niveau April, ça fait rentrer les brevets logiciels. Je rappelle que les brevets logiciels, ils n'existent pas en France, ni en Europe. Okay. Ça, c'est un concept purement américain. Hein, c'est comme si un jour vous êtes jugé, vous dites « votre honneur » au tribunal, on ne dit pas « votre honneur hein, », c'est « monsieur le président en France ». Ça, c'est le droit américain, « votre honneur ». Là, c'est pareil, les brevets logiciels, c'est notre « votre honneur » à nous, hein, ça n'existe qu'aux États-Unis pour l'instant. Mais croyez-moi, il y a un lobbying intense d'organisation pour faire reconnaître les brevets logiciels. Et oui, c'est un moyen de préserver l'innovation pour certains. C'est le seul moyen qu'ils aient trouvé. Donc une innovation, qu'est-ce qu'on fait ? On la brevette, en fait on la verrouille. Et après, le business model, il l'a quelque part. J'innove un petit truc, un double clic ou autre, et après je verrouille et puis j'embauche des avocats. Il y a des cabinets aux États-Unis qui sont spécialisés là-dessus. C'est leur boulot à plein temps. Et enfin, des dossiers en cours pour nous tient à cœur particulièrement en ce moment, c'est l'interopérabilité. Alors, très, très clairement, est-ce que vous savez ce qu'est l'interopérabilité ? Je demande ça parce que nous, on baigne dedans, donc on emploie des fois des termes que, en fait, on est les seuls à comprendre entre nous. Donc j'aimerais savoir, très franchement, qui sait pas du tout ce que, enfin, ou très peu ce qu'est l'interopérabilité, ce terme-là. C'est vraiment un sondage, ok. Donc c'est, ok, merci, oui, c'est, je sais pas, on va dire un quart, un cinquième, merci. Puis d'autres qui osent pas. Donc voilà, alors c'est tout un problème, ça rejoint les formats ouverts. Alors l'interopérabilité, en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est quand vous avez un document, on va prendre un document texte bureautique classique, que vous allez le diffuser, c'est la faculté pour les personnes qui vont le recevoir de pouvoir le lire, tout simplement, indépendamment du logiciel qu'il a, de la version ou de son exploitation. C'est ça l'interopérabilité. Là, je vous parle, c'est interopérable, hein, puisque la langue française, elle est normalisée, elle est standardisée, il y a des dictionnaires, donc on se comprend. Je pourrais parler, par exemple, d'une autre langue et vous dire, tenez, si vous voulez me comprendre, vous prenez le dictionnaire, vous l'achetez, vous avez le droit de l'utiliser pendant 30 jours, gratuitement. Et après, par contre, il faudra payer, hein, sinon, de toute façon, tous les dialogues que vous avez eus, ben, on les efface de votre mémoire. Ben, ça existe, en fait, dans le monde informatique, hein, avec des suites bureautiques comme Office de Microsoft, notamment. Donc ça, c'est des formats de fichiers qui ne sont pas interopérables. On parle de fichiers ouverts. OK ? Et ça, c'est un peu le nerf de la guerre chez nous. Donc le RGI, Référentiel Général d'Interopérabilité, c'est un document qui est censé s'appliquer à toutes les administrations publiques et qui donne un peu les règles de bon usage, de bonne pratique sur l'interopérabilité. Ils recommandent, par exemple, que quand on diffuse un document, on prend le format ODT. D'accord ? C'est une recommandation. Nous, on aimerait que ça soit une obligation, puisqu'il va de la liberté individuelle des citoyens de pouvoir accéder aux données produites par l'État. Tout à l'heure, on parlait d'éducation. L'éducation, c'est la même chose. Il faut que les ressources produites par les enseignants envers leurs étudiants soient dans des formats ouverts et interopérables. On ne va pas dire aux étudiants, tenez, là j'ai un super cours de maths discrète, vous allez voir, pour le lire, il vous faut telle version du logiciel qui marche que sur tel système d'exploitation. Mais c'est un cours, hein. Donc c'est juste pas possible. Donc voici le RGI, donc c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment, puisque vous imaginez le lobbying qu'il y a derrière. D'ailleurs, dans le RGI référentiel d'interop, le dernier, il y avait le format Office Open XML. Vous connaissez ce format-là ? Bon, je sais que tu connais. Alors, c'est le format DocX, en gros. C'est le format produit par la suite de Microsoft Office. En fait, ce que je vous dis là, c'est pas vrai, hein. Mais on va voir après pourquoi, c'est pas si simple que ça. Donc, dans ce RJ, il y a quand même utilisé aussi le DocX, c'est une recommandation. Mais quel DocX ? C'est pas celui qui est produit par les suites bureautiques en ce moment. Donc, on va y revenir juste après, ça, parce que c'est un des cœurs de notre action en ce moment. Sur l'interop. Alors, l'interopérabilité, les formats ouverts, si on regarde bien, on les retrouve il y a bien longtemps. Alors, quiz, qu'est-ce que c'est ça ? Ça a été tiré d'où ? Ok, donc je vois qu'on a affaire à un public cultivé. J'en doutais pas. Donc ici, voilà, Déclaration des droits de l'homme citoyen, 1700, je crois que c'est pas 89, c'est quelques années après. Donc ici, on voit une chose de toute simple, hein, la libre communication des pensées, des opinions, étant des droits fondamentaux et les plus précieux de l'homme. On peut donc écrire, imprimer librement, arrêter de bouger, sauf, bien sûr, il faut rester dans le cadre de la liberté. Donc ça, tout à l'heure, j'ai fait un peu de prospective philosophique avec le libre, comment ça se transpose à l'heure de l'informatique ? Parce que bon, imprimer, on peut le faire, mais on communique des pensées, des idées via un logiciel de traitement de texte, le plus souvent, ou via d'autres moyens, mais... Est-ce qu'on peut le faire vraiment librement ? Et là, on voit que dans la déclaration de cet article 11, il y a en germe cette notion d'interopérabilité, qu'on puisse communiquer nos idées librement, sans contrainte. Si vous communiquez vos idées dans un fichier, dans un format propriétaire et fermé, c'est pas librement, c'est pas sans contrainte. Donc on nie un petit peu cet article 11. Alors heureusement, nos élus, que je respecte profondément, parce qu'au niveau April, on a quand même des relations avec eux, soit certains, hein, rassurez-vous, pas tous, sinon ça se saurait, pour essayer de faire avancer les choses, ont fait valider l'article 4 de la loi de confiance dans l'économie numérique. Alors nous, on était très contents au début, puisque est définie dans la loi la notion de standard ouvert d'interopérabilité. Alors là, c'est la définition juridique technique, hein, tout protocole de communication, etc., bref, où le format de données et les spécifications techniques, c'est public et sans restriction d'accès. Comme l'exemple, quand je vous parle en français, la langue française est sans restriction d'accès. Bon, il faut l'apprendre, mais on y arrive assez bien. Un fichier texte tout simple, il n'y a pas de restriction d'accès, le format, il est tout simple. Alors, le format de fichier sur un suite bureautique, c'est par exemple ce qui décrit le fait que ce soit en gras souligné, par exemple. Donc, il y a tout un ensemble de balises qui décrit ça. Quand dans le code, il y a ça et telle balise, ça fait du gras souligné. Ce qu'il ne faut jamais faire pour un titre. Hein. Enfin, ça, c'est autre chose. Donc, tout va bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour vous, est-ce que ça, c'est un bon article ou un article qui est bon, mais en fait, non, il n'est pas très bon ? Alors, c'est intéressant parce qu'on se nourrit toujours des échanges. Alors, le protocole, c'est, voilà, bonne question. C'est la façon dont est décrit votre fichier. Je parle ici dans le cas d'un document texte. Par exemple, si vous voulez que ce soit en gras, le logiciel va mettre une balise de code informatique, hein, on va dire comme ça, qui va décrire que ce sera en gras. Donc votre fichier, il est encodé. Alors, est-ce que vous voyez ici un problème avec cet article ou pas ? Est-ce qu'on peut dire, c'est bon, on a gagné la guerre, on sait ce qu'est un format ouvert ? Ah, c'est ouvert, mais c'est peut-être pas libre aussi, oui, parce qu'en fait, il y a un truc ici qui n'est pas écrit. C'est que c'est public, ok, et on peut y accéder sans mettre en œuvre. Bon, Alors, c'est pas libre, oui, en fait, parce que c'est pas tout à fait copyright, ça veut dire que ces fameuses spécifications-là, elles peuvent être faites par une entreprise qui, elle, a la main sur ces spécifications et elle seule peut décider de comment elle va faire évoluer la norme. Et donc, vous obligez, vous, in fine, à racheter des licences pour avoir le logiciel qui va bien dans la bonne version. D'accord ? Donc là, il manque la notion libre au sens communauté. Elle n'y est pas. Quelle est la gouvernance ? Comment va évoluer ceci ? Réel problème que celui d'interopérabilité, d'ailleurs. Il faut savoir que cette définition-là, pour la petite histoire, elle a été validée par Microsoft. Voilà. C'est pour ça que nous, on parle un peu de la définition bisounours. Parce que oui, ça semble bien en regardant... Mais au final, en analysant bien la situation, on voit que c'est pas si simple que ça. Et pour nous, en format ouvert, ça devrait être ceci. Alors, excusez-moi pour le texte, c'est tiré d'un document de la version 1.0. Donc en gros, minimum que ce soit maintenu, les spécifications, en gros que la langue, si vous voulez, que le dictionnaire, soit maintenu par une organisation à but non lucratif. C'est le cas avec notre langage ici en français, on va dire, c'est ça. Il faut que ce soit la même chose pour les formats de fichiers, parce qu'il en va de la liberté d'accès des citoyens aux données. Les spécifications accessibles gratuitement ou à coût minimal, bon, le coût de l'impression, à la limite. La fameuse propriété intellectuelle, alors excusez-moi du terme, c'est un oxymore un petit peu, s'il y a des brevets éventuels, il faut qu'elles soient incluses. Ce n'est pas toujours le cas. Le texte d'avant, avant les bisounours ici, les spécifications techniques... Il y a un exemple dans le format Office OpenXML où il y avait écrit que ça se comportait comme Word 98. C'est marqué dedans. Mais oui, c'est quoi Word 98? Ah ben là, il y a une propriété intellectuelle derrière, il y a un brevet, on ne peut pas le diffuser, donc voilà. Mais ce problème-là n'est pas contourné par ça. Tandis que là, oui, on aurait vraiment une vraie définition. C'est pour ça que nous, on essaie d'avancer pour cette définition-là. Et enfin, bien sûr, pas de contrainte de réutilisation. Donc pilotage par la communauté, ben, le mode logiciel libre, et pas contrainte de réutilisation. Ça, c'est le plus crucial. Et c'est pour ça que cette idée-là est importante. C'est que même la Commission européenne a dit... bon, c'est version 1. On va voir pourquoi c'est resté version 1 après. C'est qu'ils ont clairement écrit dans leur statement que c'est pas les standards qu'il faut faire évoluer pour les changer. Hein, c'est pas ça. C'est les logiciels propriétaires qui doivent évoluer. Parce que dans toute cette guéguerre, parce que vous imaginez pas le nombre de rendez-vous qu'il y a eu suite à ça... Hein. Je veux dire, là, les compagnies aériennes, SNCF, tout ça, ils ont eu un pic d'activité chez certaines personnes qui sont beaucoup déplacées, qui ont beaucoup téléphoné aussi, pour dire, attention, là, vous ne nous faites pas ça, nous, on a des emplois. Et oui, mais la communauté européenne dit, nous, on s'occupe de l'État, des citoyens, donc des intérêts qui sont un petit peu antinomiques parfois. Donc, ils ont clairement dit que ce n'était pas les formats ouverts qui devaient évoluer, parce que certains disaient, notamment, je pense, des entreprises que j'ai déjà citées, donc je ne vais pas le refaire, disaient, oui, mais nous, on ne peut pas le faire, ça, on aimerait que ce soit plutôt comme ça. Mais non, un standard, c'est une langue, c'est défini pour tous. Et charge à vous de vous débrouiller pour l'adapter à votre modèle. Alors le modèle, justement, vous reconnaissez le personnage ici ? Alors ça, c'est vieux, ça. Alors ça, c'est Clippy. C'était sur Microsoft Office dans les années 90. Voilà. Et c'est le petit personnage de la suite bureautique qui ben, il lit ce que vous écrivez. Et quand vous écrivez des bêtises, il vous dit « Hop, t'as oublié un accent, il y a ça, je te propose d'améliorer comme ceci. » Alors maintenant, si on est en mode de paranoïaque, on dirait aussi qu'il lit ce que vous écrivez, et puis il envoie aussi à d'autres personnes s'il y a des mots-clés. Par exemple, vous mettez Al-Qaïda, terrorisme, tout ça, je pense qu'il y a peut-être des mots-clés qui vont partir. Enfin, ça, c'est la théorie, mais en tout cas, il lit. Et là, il nous dit que ah, mais l'Europe parle quand même de modèle. Mais nous, enfin, après, le logiciel des propriétaires, désolé, c'est pas un modèle. Hein. Pour nous, clairement, c'est une forme de parasitisme, puisque certains développeurs font du code et on le verrouille de suite. Et on appelle ça l'innovation après. C'est pas un modèle à notre société, hein. Je pense pas que ce soit tenable. Donc, on aurait, nous, retoqué cette définition-là. Alors, je pense pas, bon, là, c'est dimanche, on peut, hein. Je suis allé un petit peu franco. Bon, la version d'avant était pire, hein, quand même, hein. Mais donc, on parle vraiment de parasitisme et c'est le logiciel propriétaire qui doit évoluer. Évoluer ou disparaître, hein, je sais pas. Mais ça, c'est pas notre business, puisque nous, on travaille ici. Sur les grands principes fondateurs un peu de la société. Alors justement, sur les formats ouverts, et je vais terminer là-dessus, au niveau April, on vient juste de lancer une campagne dans le domaine de l'éducation. C'est l'appel pour l'interopérabilité dans l'éducation nationale. Alors c'est pour ça que je vous posais la question sur le terme interop, parce Parce que nous, on le connaît, mais il n'est pas très lisible pour le public en général. C'est quand même des gens, voilà, maintenant vous savez, vous, mais on n'est pas tous représentatifs de la population. Donc, on a lancé cette campagne, c'était jeudi dernier. Donc, un gros travail en amont. Hein. Heureusement qu'on a des permanents qui sont très actifs là-dessus. Et le but, c'est de contraindre le ministère de l'Éducation nationale à imposer l'utilisation de formats ouverts dans tout, que ça devienne le document de travail de l'Éducation nationale, au-delà de l'enseignement supérieur aussi. Hein. Parce que ça, c'est crucial. Et pour en avoir parlé même avec des personnes qui sont chefs d'entreprise dans le monde du libre, le format, c'est la clé. Donc, si on arrive à imposer des standards ouverts, pas au sens de la loi, hein, au sens qu'il y a juste avant la version 1 hein, du draft européen, ben, ça sera déjà un très bon point de départ. Donc on a reçu pour ça le soutien de quelques syndicats de l'éducation, d'autres vont venir. Là, la capture d'écran, elle a quelques jours, on doit être, j'espère, à 2000 signatures, avec quasiment que des enseignants, mais c'est un appel qui s'ouvre à tous, qui est ouvert à tous. Donc vous, en tant que citoyen, je ne peux que vous engager à le signer là-dessus. Parce que nous, ça tombe bien, puisqu'il y a le salon de l'éducation, Educatec, Educatis, dans quelques jours, dans une semaine. Et après, on a un rendez-vous au ministère, une audience. Hein. On peut avoir une audience, n'importe quel citoyen peut en solliciter une. On va parler d'autres sujets, bien sûr, du libre en général, mais aussi des formats. Et si on arrive avec un poids suffisant, peut-être qu'on va pouvoir commencer à faire bouger les lignes. On a fait une étude un peu statistique sur tous les serveurs des rectorats de la quête des académies en France. Ah, étonné, d'après vous, quel est le pourcentage de formats propriétaires et fermés? Ça inclut des ressources pédagogiques, des documents faits par les inspections, des circulaires, les fameux menus de la cantine. Alors? Allez, plus de 50? Moins de 50? Bon, je crois que je vous ai un peu chauffé là-dessus, donc vous allez être proche de la bonne estimation. Ben, on a trouvé 90% en moyenne. 90%. C'est-à-dire 9 fichiers sur 10, on a du docx ou du doc, quand même. Des ressources pédagogiques, hein. Des choses qui sont destinées à être partagées et diffusées. Donc ça, il faut absolument inverser la tendance. Et si on arrive à le faire pour l'éducation, ben c'est déjà un premier pas. Après, il faut savoir que la gendarmerie nationale l'a fait, ce pas. La gendarmerie utilise massivement des logiciels libres, maintenant, du GNU Linux, des formats ouverts. Alors si la gendarmerie y arrive, je ne vois pas pourquoi nous, l'éducation, n'y arriverait pas. Donc, à suivre là-dessus. Donc faites vraiment circuler cet appel. C'est vraiment important. On va essayer de faire valoir les choses. Et là, je pense qu'il y a quelques minutes, on a dû passer les 1789 signataires. Et ça, c'est vraiment révélateur et ça boucle un petit peu sur la diapo où j'ai projeté la déclaration des droits de l'homme. Voilà. Je vous remercie et compte sur vous pour buzzer un petit peu autour de ça. Merci. Merci, merci. Bon, là, les crédits, puisque j'ai rien fait moi-même et j'ai copié les autres. Donc, sans le travail de tous ceux qui a cité ici, j'aurais passé beaucoup plus de temps à faire mon diaporama, donc je les en remercie. Alors, vous voulez imprimer en 3D des matraques, c'est ça? Oui. Alors, ça existe, hein, parce que le modèle ici... Le modèle que j'avais montré des gâches, bon, je vais pas, des gâches de fenêtres, il est sur un site qui s'appelle Thingiverse, et sous licence Creative Commons, by SA. Ça veut dire que c'est un peu technique encore, et ça permet de les modifier. Donc effectivement, on peut avoir des matraques et les améliorer, et les rediffuser. Alors si on met un DRM sur la matraque, peut-être que vous n'aurez pas le droit de taper certains individus avec. Il vous arrêtera.
Concernant justement tout ce qui est administration, moi il me semblait qu'il y avait eu alors je sais pas si c'est des directives, des lois, des machins qui disaient qu'il fallait que ça passe au libre. Alors du coup, je me dis là on est obligé de passer par une pétition. Ça paraît assez ouf.
Ça paraît tout à fait. Ouais. Alors la pétition, nous on l'a. Alors c'est pas tout à fait une pétition. C'est vrai que j'ai peut-être prononcé ce terme. C'est un appel en fait. C'est un appel des 100. Donc c'est différent dans l'esprit, hein. C'est plus positif on va dire, puisqu'on a contacté une centaine de professeurs du second degré ou du supérieur aussi qui sont assez acteurs dans le domaine des nouvelles technos dans l'éducation, pour qu'ils portent cet appel-là. Donc c'est plus un soutien à l'appel. Alors après pour votre question sur la partie les administrations, oui il y a eu des circulaires qui ont circulé, notamment la circulaire Héro, c'est peut-être à ça que vous faites référence.
Moi il me semble que c'était même encore plus ancien que ça.
Ouais.
où effectivement on disait bah, maintenant il faut que l'administration passe au lit pour des raisons de coût, effectivement, en priorité. Quoi.
Mais ça n'a pas été suivi des faits. La circulaire Hero était un peu plus contraignante que ça, elle parlait vraiment de logiciel libre, de format ouvert, pour tout le socle ministériel et l'administration centrale. Et ça n'a pas vraiment été suivi, il n'y a pas d'effet. Donc c'est pour ça qu'on est obligé, vraiment, c'est triste, mais voilà. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe si un Premier ministre fait une circulaire et qu'elle n'est pas réellement appliquée derrière? Alors je suis un peu radical là, parce que cette circulaire a permis quand même de faire bouger les lignes, et c'est très long, quand même. Donc il y a des services ministériels qui sont dédiés au logiciel libre, qui sont chargés d'élaborer un socle commun interministériel de logiciel libre, qui existe et qui est diffusé. Mais les habitudes sont longues à changer, puis il y a du lobbying, il y a de l'économique en face. Donc on espère que là, on va pouvoir débloquer. Ouais, c'est une utopie en marche. C'est ce qu'on craint. Ouais. La question c'était, est-ce qu'avec TAFTA, Microsoft peut attaquer l'État français pour je sais pas quoi, mais en théorie, oui, ça, TAFTA permettrait ce mécanisme-là. Et c'est des accords qui sont comme ACTA à l'époque, qui sont pas négociés, qui sont négociés par des négociateurs, qui n'ont pas été élus, ou sans vraiment, enfin, on se pose vraiment la question, est-ce qu'il y a un contrôle démocratique dessus? Non, c'est pas du lobbying, c'est des représentants.
Des gens qui en prennent.
Voilà, c'est...
Donc je profite en deux secondes. Il faut regarder très près ce qui se passe au niveau du GNP, c'est le même site qui représente c'est la même chose. C'est toutes ces petites luttes qu'on est en train de faire partout, sur le logiciel libre, sur ce qui se passe à CIVAS aujourd'hui, sur tous ces sujets. Toutes ces petites luttes risquent de gaz de schiste, risquent d'être ouvertes et éteintes par l'unique accord d'État. C'est quelque chose dont il faut s'informer de très près, surveiller de très près.
Oui, ça a des implications dans beaucoup de domaines. Ouais. Mais si on ne peut pas rentrer par la porte, on rentre par la fenêtre, hein, en fait. Hein. C'est ce qui est en projet. Donc c'est vrai que TAFTA, ça fait partie des dossiers qu'on suit particulièrement. Vous pouvez voir sur le site de l'April les publications là-dessus, les analyses de notre chargé des affaires publiques qui détaille un peu plus l'accord. Mais c'est un dossier parmi plein. Et c'est vrai que si on était plusieurs, plus gros, on pourrait faire vraiment une force de proposition. Faire pas du lobbying, nous on fait de la défense, de la promotion.
Bonjour. Est-ce que vous pourrez juste revenir sur cet exemple-là d'interopérabilité? En fait, comment vous choisissez les formats qui vont permettre de... En fait, l'idée, c'est d'échanger les données facilement, de pouvoir les lire dans n'importe quel logiciel, donc de définir des standards de format. C'est un peu ça l'idée, je résume, si j'ai bien compris.
C'est ça.
Et comment on choisit les formats, en fait? Parce que la question, elle est là, c'est qui choisit? Vous avez proposé des formats sous certaines licences. Comment vous faites? Alors, du coup...
Alors, l'élaboration d'un format, c'est un mécanisme qui est complexe, qui est en général fait par l'AFNOR, et avec le ISO, l'Institut ISO, l'Institut de normalisation internationale, qui élabore un format. Ça se passe comment? C'est des réunions où des représentants, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, se réunissent pour élaborer un format qui va décrire la bureautique de demain. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et après, il y a des choses qui se passent des fois, et puis le format arrive pour valider, sans qu'on sache trop qui l'a validé ni comment. Donc le seul format qui a été réellement ouvert, c'est bien sûr c'est le format ODT. Et lui, il a été défini par la Document Foundation, qui en fait travaille en étroite collaboration avec LibreOffice ou Apache OpenOffice, dont certainement vont quand même travailler avec. Et ça a été validé par la norme, non, c'est norme ISO, norme internationale. Donc c'est défini par un groupe de travail en fait. C'est la question où normalement n'importe qui pourrait y aller, mais c'est plutôt des représentants d'institutions ou d'entreprises.
Donc, les formats dans le cas du point ODT, vont aussi avec les logiciels libres qui vont pouvoir les lire. Enfin, c'est un peu comme ça qu'ils sont choisis.
Et aussi avec les logiciels propriétaires.
Et qui seront libres, lus ou aussi par les
Et oui, le format est ouvert, la façon de décrire le document est ouverte, donc n'importe quel suite bureautique propriétaire peut l'implémenter et bien si possible.
D'accord, merci.
C'est pour ça, c'est la phrase de tout à l'heure, où je disais que c'était le modèle, on parlait de modèle propriétaire, c'est le logiciel propriétaire qui doit évoluer, lui, pour s'adapter au format. C'est ça. Tout à fait. Donc, il y a un plugin sur Microsoft Office, enfin une extension qu'on peut rajouter à Microsoft Office qui va vous permettre de lire correctement du ODT. Enfin, correctement. On le croit. Hein. Mais l'implémentation, nous on appelle ça l'implémentation, elle n'est pas satisfaisante. Elle n'est pas optimale. Alors, est-ce que c'est une stratégie? Je pose la question. Peut-être qu'ils ont intérêt aussi à montrer que, ben oui, quand on enregistre en ODT, ben, il y a une mise en page qui saute, il se passe des choses qu'on ne contrôle pas. Non, la norme ISO du format ODT, elle est claire. Il faut l'implémenter. Et si une société de la taille de, je sais pas, Microsoft ou d'autres n'est pas capable de le faire, c'est peut-être qu'ils sont pas très bons à la base. Hein. Enfin, c'est le message que, on peut se poser la question. Alors qu'ils peuvent le faire. Ils l'ont fait, puisqu'il y a quand même des pressions. Hein. C'est pour ça qu'ils ont fait cette extension. Alors là, c'est compliqué. Je dirais oui et non. Le format Office Open XML est normalisé ISO, effectivement. Alors ça, c'est un petit peu technique, hein, parce qu'on rentre dans les méandres de la normalisation AFNA. En fait, il y a un format qui a été normalisé ISO, c'est le Office Open Strict. Lui, normalisé ISO, il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas implémenté chez Microsoft Office. Et tout ça s'appelle DocKit, pour ajouter à la confusion. Et ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, la suite bureautique qui respecte le mieux le format normalisé ISO Office Open XML Strict, c'est LibreOffice. Voilà. Oui.
C'est dans un autre domaine. J'ai l'impression qu'en France, le libre est pas mal porté par les professeurs et par l'éducation nationale de manière générale, notamment avec Framasoft, si je me souviens bien, à la base, ça vient de l'éducation nationale, enfin des professeurs.
Oui, Eric Hoffman était prof de maths. Ouais.
Et comment, à ton avis, est-ce que ça se fait que dans la gendarmerie, il y a peut-être beaucoup de gendarmes qui sont amateurs de libre, mais comment ça se fait que dans la gendarmerie ça se soit fait et pas dans l'éducation nationale alors qu'il y a autant de mouvements dans l'éducation nationale pour le libre?
Je pense que ce qui a motivé la gendarmerie, il y a des gens qui sont extrêmement compétents à la gendarmerie sur le monde du logiciel, déjà, et des contributeurs à des projets libres d'importance. Hein. Ce qui a motivé, c'est la maîtrise de l'informatique. Question de sécurité. C'est simplement ça. La motivation une, et après, bien sûr, réduction des coûts, etc. Puisqu'elle est massive, la réduction des coûts. Mais eux ont contribué en retour. Et ça, c'est bien. Et la possibilité de Ah, peut-être aussi. Il faut voir que notamment l'armée russe a migré, je crois, sur une solution libre. Enfin, pas libre, ils ont pris un nom copyleft parce que, voilà. Ils voulaient quand même être maître de l'informatique. On peut mettre des backdoors, vous savez, les portes dérobées. Là. Mais nous, en France, tout va bien, puisque le ministère de l'Intérieur vient de renouveler un contrat avec Microsoft. Open Bar s'appelle. Donc, tous les gens, même confidentiels de défense, peuvent prendre les produits Microsoft qu'ils veulent. Open Bar. Il n'y a pas de souci, dans des conditions un petit peu douteuses. Mais tout va bien, puisque une interview d'un des généraux a dit que, de toute façon, ce ne sera pas sur des postes sensibles. Voilà. Donc, je pense qu'ils vont mettre un poste... Les postes sensibles, ils seront coupés du réseau, quoi, on peut imaginer. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'on a révélées, on nous a fait passer des documents, que nous, on essaie d'agir pour dire, ah non, attention, le contrat, il est passé en dehors des procédures de marché public. Oui, allez-y.
Merci pour votre travail. Question d'un vieux, puisque j'entame ma 60e année. Il me semble bien qu'il y a 15 ans, il y avait, et les questions sont doubles, hein, une recommandation européenne, donc de l'Union européenne, qui concernait les achats publics, en particulier les marchés publics, mais pas seulement les marchés, les achats, et qui disait que priorité devait être donnée, avec quelques pondérations pour que ça reste raisonnable et rationnel, à justement l'interopérabilité au format ouvert et aux logiciels ayant des caractéristiques proches de ce qu'on appelle le libre aujourd'hui. Et deuxième question, vous n'avez pas développé la ligne marché public du transparent dans laquelle figurait au-dessus de RGI. Est-ce que vous pouvez dire un mot ?
Merci. Alors, sur les marchés publics, c'est un de nos dossiers prioritaires, bien sûr. Alors, pour votre première question, la partie priorité donnée au libre, pas ma connaissance. Hein. Après, je suis pas assez, j'étais trop jeune, moi j'ai 40 ans, je ne suis pas non plus très très jeune, mais à voir. Alors, sur ce point-là, il y a un an et demi, il y avait un projet de loi sur la refondation de l'école où il donnait la priorité au logiciel libre. Et ça a été complètement retoqué lors de la navette parlementaire pour justement lever cette priorité-là. C'est pour ça que je suis étonné, on a échoué l'an dernier, mais pas trop quand même, que c'est déjà existé il y a 15 ans. Après, sur les marchés publics, là, il y a certains préfets, notamment le préfet d'Isère, qui a fait passer une circulaire comme quoi, dans les marchés publics, il fallait faire apparaître la notion de logiciel libre. Que ça apparaisse vraiment comme dans le cahier des charges. Il y a certaines collectivités qui ont passé des marchés publics, d'ailleurs, en demandant un développement sur un socle logiciel libre. Je pense que c'était dans le nord de la France pour un ENT, enfin, produit spécifique éducation, qui avait un budget de plusieurs millions d'euros. Donc, en gros, pour la petite histoire, ils ont fait ce marché sur cette solution-là, libre, mais ils ont été attaqués en justice après par un éditeur propriétaire. Et c'est allé jusqu'au Conseil d'État qui a cassé le jugement en disant que non, il n'y avait absolument aucun souci, qu'une collectivité pouvait très bien demander un développement sur une socle libre et que la concurrence, elle n'était pas non faussée, elle était libre et non faussée, puisque l'éditeur avait qu'à justement utiliser la partie, se mettre à utiliser le logiciel libre et développer. Après, sur les marchés publics, de façon générale, il y a un souci, puisque c'est, chez Libre, c'est souvent gratuit. Donc, ça apparaît peut-être pas dans les centrales d'achat type UGAP ou autre. Voilà. Donc là, nous, on essaye, mais voilà, on a tellement de sujets à traiter. On a des contacts, on essaie de faire évoluer là-dessus, pour qu'ils mettent au moins une information, pour que le libre soit propice au marché public. Il y a aussi le document qui a été fait par l'APIE. Ça vous parle, l'APIE ? L'Agence du patrimoine intellectuel de l'État, quelque chose comme ça. Alors, je vous donnerai le lien après, je ne l'ai pas en tête, qui a élaboré quand même, et ça c'est une bonne nouvelle, un recueil de bonnes pratiques pour passer des marchés publics qui soient conformes un peu et qui fassent exister le logiciel libre. Oui.
Ouais.
Alors, Toulouse a migré sa bureautique sur le logiciel libre. Bon, la question, vous avez entendu ou pas? Donc, il y a un article sur le site de l'April, ou même sur la presse régionale, disant que la mairie de Toulouse, je crois que c'est Toulouse Métropole d'ailleurs, avait économisé de l'argent puisqu'ils étaient passés à LibreOffice. Donc, ils économisaient jusqu'à 1 million d'euros sur les licences. Donc, ça en est où? Alors, pour info, la ville de Toulouse est adhérente de l'April. On a aussi des collectivités adhérentes comme ça. Et donc, oui, ça leur permet des économies. Il y a toute une volonté de migration en interne, et nous, on essaie, à notre niveau, surtout des militants locaux, d'essayer de faire évoluer ça, en relation avec les entreprises locales. Ce serait bien que ça crée de l'emploi local, plutôt que ça parte en licence et que ça transite via des paradis fiscaux. Alors, la question qu'on a posée, bon, on la reposera, c'est est-ce qu'en retour de ces économies, il y a une contribution à la communauté? Donc là, ils ont développé des modèles internes, en faisant travailler des sociétés du libre, d'ailleurs, donc ça montre bien que le modèle libre fonctionne. Des personnalisations pour l'adapter à leur propre système informatique. Mais la migration est en cours et je pense que ça va s'intensifier. Et on espère qu'ils libéreront des améliorations qui sont dignes d'intérêt. Voilà. Oui ?
C'était une précision, c'était pas une question, mais vas-y. Sur le... Pourquoi... Microsoft a gardé les marchés sur l'éducation nationale, c'était un peu pour dire que c'était un marché prioritaire pour eux de garder l'éducation, parce que c'est très important de former les professionnels du futur sur les outils, parce que c'est les outils qui vont exiger, qui va leur paraître le plus facile à utiliser par le futur. Et je voulais redire l'importance de la mission de l'April sur le sujet.
Merci.
C'est important de travailler là-dessus, puisque c'est prioritaire pour le concurrent.
Et ça répond à la question, j'ai peut-être répondu à ta question tout à l'heure sur l'éducation, pourquoi il y avait pas mal de... Ah oui, parce qu'on a une forme de responsabilité éthique, quelque part, et peut-être qu'on a un peu plus de temps, voilà. Je sais pas pourquoi, il y a pas mal d'enseignants là-dessus, mais c'est vrai que c'est crucial. C'est l'enjeu. C'est la première marche. Et je pense qu'elle n'est pas très haute, hein, mais il faut continuer. D'autres questions? Oui.
Et donc, un truc tout simple, tout ce qui est gestion des mails, les adresses mails, etc., sont gérées par Microsoft elle-même, et on en arrive à des aberrations qui sont que la boîte doit payer 5 euros par mois par mail déclaré sur la société. Donc, en imaginant une société avec 200 personnes, tous les mois, il y a 1000 euros juste pour maintenir une adresse mail dans l'entreprise, quoi.
C'est un bel exemple d'économie de rente.
Exactement.
J'aurais pu parler de la rente hein, quand je suis parti en digression sur la fin du capitalisme tel qu'il était défini au début du siècle. C'est ça. Donc dans le livre, en fait, ça permet de boucler. On substitue un modèle basé sur la rente à un modèle basé sur la contribution. Et c'est vrai que c'est des sommes colossales. Et je pense que, notamment des gens comme Regard Citoyen, enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, ça serait bien s'ils arrivaient, bon, ils sont comme nous, et ils font du temps, des bénévoles, etc., à savoir la somme qui est dépensée en licence privatrice par an sur une académie, par exemple. Ça serait intéressant. Mais je pense qu'il suffit de faire un courrier et demander les bons documents. Donc si vous connaissez des gens qui connaissent le nom du bon document, on peut le faire sortir, puisqu'il y a un droit d'accès aux données. Alors je pense que nous, ils risquent de le caviarder un petit peu, parce que des fois ça arrive, hein, quand on fait des requêtes d'accès à des documents d'État, il y a un peu de blanco qui est passé un petit peu trop partout. Des fois, en caricaturant, il reste la date et c'est tout. Mais bon, comme ça oblige aussi les administrations à réaliser que voilà, il y a peut-être autre chose à faire. Pour en finir avec cette rente qui oui, c'est un peu une censure sur le système éducatif et sur certaines entreprises. D'autres questions? Bon, ben, merci beaucoup.